partie maintenant des grands classiques. Et je ne vais pas vous demander de lever la main, mais je pense que la plupart d'entre vous ont au moins lu une bande dessinée d'Astérix et Obélix. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien, disons que ça manque encore à votre éducation. J'en ai lu pas mal quand j'étais plus jeune. Et j'en lis encore pas mal. En hiver surtout, quand je suis dans le sous-sol à faire du vélo dans ma maison, je trouve que c'est une bonne littérature qui permet de ne pas perdre son temps. Écoutez, Obélix, il est fascinant. Lui, il n'a pas le problème des autres, parce que les autres, ils doivent prendre régulièrement de la potion magique pour pouvoir s'en sortir. Mais lui, il est tombé dedans quand il était petit. Donc, il est costaud en permanence. Il est fantastique, ce gars-là. C'est celui qui attrape un menhir comme ça et qui le lance à la tête des Romains. Obélix, c'est celui qui attrape un Romain par le pied, qui le fait tourner comme ça et qui assomme tous les autres avec son Romain. Il va dans la forêt, il attrape une dizaine de sangliers, il les prend sous le bras et il les ramène dans son village parce qu'il n'est pas encore végétarien. Obélix, il est super. Un personnage impressionnant. Mais il a une grande faiblesse, ce costaud-là. Il est invincible, mais il a une grande faiblesse. Les jolies filles. Quand Falbala arrive dans le village, alors là, il tombe à la renverse. Il voit des petits cœurs rouges partout. Il est comme hypnotisé. Incroyable. Sa grande faiblesse, c'est les jolies filles. Et ce personnage très attachant d'ailleurs, me rappelle un personnage biblique que nous connaissons bien et qui avait à peu près les mêmes caractéristiques. Il s'appelle Samson. Et c'est vrai que Samson, il est tombé dans la potion magique quand il était tout petit. Et c'est vrai que Samson, il a un problème avec les jolies filles aussi. Mais cette histoire que nous avons dans les Écritures me parle de beaucoup de choses. Parce qu'elle est dans les Écritures et je crois que ces choses nous ont été rapportées à nous qui vivons à la fin des temps pour notre instruction. Samson a développé une mauvaise réputation. C'est cet homme puissant que Dieu avait béni et puis qui a été avec les femmes étrangères là-bas et ces trois femmes successives qu'il a eues lui ont tourné la tête, ont finalement percé son secret et Samson a perdu sa force. Samson a même perdu son contact avec Dieu. Il a été réduit en esclavage et puis finalement, il est mort misérablement. Samson a développé une mauvaise réputation à cause de cela, mais le texte nous dit qu'il a été juge en Israël pendant 20 ans. Et quand on lit son histoire, on se rend compte qu'il a infligé pas mal de défaites à l'ennemi, aux Philistins qui dominaient sur le peuple d'Israël à ce moment-là. Il y a donc dans l'histoire de Samson des choses intéressantes, des choses curieuses. D'ailleurs, le Nouveau Testament nous parle de Samson. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, se trouve la longue liste des héros de la foi. Tous ces gens qui se sont singularisés dans l'histoire du peuple de Dieu par une foi particulière. Et figurez-vous qu'au verset 32 de ce chapitre, il est question de Samson, comme un héros de la foi. Et il est mis à côté de David et de Samuel, qui n'ont pas nécessairement développer une mauvaise réputation comme lui, et pourtant. Samson, parmi les héros de la foi. Alors, quand on lit ces passages des Écritures qui ont trait à Samson et à sa vie, on découvre qu'il y a quelque chose qui va plus loin que la vie de Samson. Prenez votre Bible, voulez-vous, dans le livre des Juges, au chapitre 13, où commence l'histoire de Samson. J'aimerais lire avec vous quelques passages de sa vie. Par exemple, dans Juges, chapitre 13, au verset 3, il est question de cet ange qui est venu annoncer sa naissance à sa maman. Et il est dit, Juges, chapitre 13, verset 3, L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Et au milieu du verset 5, un peu plus bas, il est dit, « Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Quand j'entends ce texte, j'entends d'autres textes des Écritures que je connais. Regardez par exemple dans l'évangile de Luc au chapitre 1er, évangile selon Luc, chapitre 1er, se trouve là aussi l'annonce d'une naissance que nous connaissons bien, et le vocabulaire se ressemble étrangement. Évangile selon Luc, chapitre 1er, au verset 31, il est dit, verset 30, l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Et dans l'évangile, selon Matthieu, au chapitre 1er, une autre phrase est rajoutée. Il est dit, « C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Vous entendez dans l'annonce de la venue de Jésus à Joseph et à Marie l'écho de ce que l'ange de l'Éternel a annoncé à Manoac et à sa femme, tel que rapporté dans Juges, chapitre 13. J'aimerais vous suggérer que derrière le personnage invincible de Samson se trouve une image de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et je sais que Samson a développé une mauvaise réputation. Et je sais qu'il y a dans sa vie de nombreuses pages qui sont regrettables parce que finalement il a été rejeté par Dieu. Cependant, comme dans la vie de bien d'autres personnages de l'Ancien Testament, il y a des éléments qui nous apprennent à connaître le Seigneur Jésus. Et vous l'avez deviné, j'en ai trouvé 7 à partager avec vous aujourd'hui ce matin. La première chose est relative à sa naissance justement. Il nous est dit dans le livre des Juges, au chapitre 13, que la maman de Samson était stérile. Et l'ange vient lui annoncer qu'elle va avoir un enfant impossible. Et puis, un peu plus tard, l'ange va se présenter à nouveau et parler à Manoac pour confirmer que cette annonce est véritablement d'origine divine. C'est un enfant particulier qui va naître. Des instructions vont être données, il sera naziréen, mis à part, dès le ventre de sa mère. Lorsque je relis les textes qui racontent la naissance de Jésus, je trouve aussi ces passages où l'ange vient annoncer à Marie la naissance d'un enfant particulier, une naissance impossible parce qu'elle n'est pas mariée. Et puis, l'ange va encore parler à Joseph pour confirmer aussi que cette annonce d'un enfant particulier est bien d'origine divine. De plus, dans cette histoire, c'est Jésus lui-même qui vient annoncer la naissance de Samson. Regardez par exemple un petit peu plus loin dans Juges chapitre 13, Manoac et sa femme sont là devant l'ange de l'Éternel, nous dit le texte. Et il est dit au verset 17, et Manoac dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom ?» afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. » Curieusement, le mot qui est employé ici, « merveilleux », c'est le même mot qui est utilisé avec une forme légèrement différente dans ce texte que nous connaissons bien, dans Ésaïe, chapitre 9, au verset 5, où il y a ce passage qui annonce prophétiquement la naissance de Jésus, où il est dit, et vous connaissez ce texte, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » On l'appellera admirable. C'est le même mot qui est employé dans le livre des Juges lorsque l'ange dit « Mon nom est merveilleux ». Un mot qui fait le lien ici entre ces deux passages. Curieusement, l'ange de l'Éternel accepte l'adoration de Manoac et de sa femme. Il va d'ailleurs faire quelque chose d'extraordinaire. Le texte continue, verset 19, et dit « Manoac prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il opéra un prodige pendant que Manoac et sa femme regardaient. » Et le mot qui est employé ici pourrait être traduit littéralement « Il fit quelque chose de merveilleux pendant que Manoac et sa femme regardaient. » C'est le même mot. Cet ange de l'Éternel dont le nom est merveilleux a fait quelque chose de merveilleux sous leurs yeux, c'est qu'il est parti et remonté au ciel dans la flamme du sacrifice qu'il lui avait offert. Manoac, conscient de ce qui vient de se passer enfin, dit à sa femme, « Nous allons mourir, nous avons vu Dieu. » Il réagit de la même manière que Ésaïe lorsqu'il a cette vision du Dieu Tout-Puissant. Ésaïe pensait mourir parce qu'il avait vu Dieu. Le deuxième élément qui rapproche Samson de notre Seigneur Jésus-Christ est en rapport avec ce qui est rapporté au chapitre 14 du livre des Juges. Au verset 1er, il est écrit ceci. Samson descendit à Tina et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit « J'ai vu à Tina une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père « Prends-la pour moi car elle me plaît. » Et le texte continue en disant « Son père et sa mère ne savait pas que cela venait de l'Éternel. » Cette phrase attire mon attention. C'est un peu comme si le texte disait « Regardez et lisez entre les lignes. Une lecture superficielle ne vous fera comprendre l'histoire que comme les parents de Samson. Regardez plus loin. » Et je regarde plus loin. Et je pense à Jésus. Je pense à Jésus qui a un amour inaltérable pour cette femme étrangère, cette non-juive qui s'appelle l'Église, constituée de tous ceux qui, ayant accepté qu'il soit leur sauveur, constituent son épouse maintenant. Et j'aimerais simplement prendre un ou deux passages dans l'Évangile qui montrent à quel point Jésus, lorsqu'il était sur terre, avait déjà des yeux sur l'épouse à venir. Regardez dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 8. Évangile selon Matthieu au chapitre 8. Il nous est là rapporté un miracle de Jésus. Un Romain, un centenier romain, va venir voir Jésus et demander que Jésus guérisse son serviteur. Et Jésus va être frappé par l'attitude de ce Romain, de ce païen, qui vient lui demander cette faveur. Et qui va faire une leçon, en fait, de foi à tous ceux qui l'entourent. Vous vous souvenez comment cet homme va dire à Jésus « Tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Dis simplement un mot, mon serviteur sera guéri. » Et il précise « Moi, quand j'ai un ordre à donner, je donne un ordre et mon serviteur obéit. » À combien plus forte raison, si tu donnes un ordre, mon serviteur, lui, sera aussi guéri. Et Jésus est interpellé par l'attitude de cet homme. Un peu plus loin dans le texte, Évangile selon Matthieu, chapitre 8, au verset 10, il est écrit ceci. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. » Jésus ici voit dans l'attitude de ce païen une foi, la foi qui représente la foi de ceux qui viendront à lui dans la suite des temps. Non pas issus du peuple choisi en premier lieu, mais issus des autres peuples, du monde entier. Une foi plus forte encore que celle de son propre peuple. Jésus est impressionné et leur dit, « Ils viendront du midi et du nord, de l'Orient et de l'Occident, et ils seront assis à à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Jésus voit en perspective cette femme à venir, l'Église qu'il aime déjà. Et puis j'aimerais regarder ce texte dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12. Évangile de Jean, au chapitre 12, il y a là un événement important qui cependant passe presque inaperçu dans le texte. Évangile selon Jean, chapitre 12. Au verset 20, il nous est dit que des Grecs qui étaient venus pour la fête demandent à voir Jésus. Ils veulent voir Jésus. Et on va le rapporter à Jésus. Et Jésus est impressionné. Jésus va répondre, verset 23, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Jésus est touché par ce désir qu'ont ces étrangers de voir Jésus. Et il va l'exprimer un petit peu plus loin au verset 27 en disant « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel, « Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. » Jésus est touché par la foi de ces Grecs qui veulent voir Jésus, dont ils ont tant entendu parler. Et en voyant ces gens, Jésus voit l'Église à venir, tous ceux qui accepteront son nom comme le nom de leur sauveur personnel. Et il est troublé parce qu'il a envie d'aller dans le monde entier prêcher cette bonne nouvelle. Mais ce n'est pas son rôle. C'est pour cela qu'il dit, « Père, délivre-moi de cette heure. » Je suis venu pourtant pour cela. Mais il y a là une tentation à laquelle il veut absolument résister parce que ce sera la mission de ses apôtres d'aller dans le monde entier et d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus. Jésus voit déjà au travers de ces étrangers qui viennent à lui une image de l'Église future, de cette femme étrangère, si je puis dire, étrangère à l'alliance originelle qu'il avait faite avec Israël. Et Samson, qui va chercher cette femme étrangère, est une image de Jésus. Le texte nous dit « Ses parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. » Ce plan que Dieu a d'offrir le salut au monde entier en Jésus-Christ, c'est un plan qui vient de Dieu. Et beaucoup de ceux qui appartenaient à son peuple ne s'en étaient pas rendus compte. Cette femme qu'est l'Église à venir, c'est celle qu'il aime malgré toutes ses infidélités, comme les femmes de Samson. Lisez par exemple ces lettres que Jésus va écrire à cette Église étrangère dans l'Apocalypse, dans les premiers chapitres, chapitre 2, chapitre 3. Les églises qui se succèdent au travers du temps sont toutes des églises qui ont été infidèles à leur époux, à Jésus-Christ. Et pourtant, dans ces lettres, on entend l'amour de Jésus pour son Église jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière Église, celle qui attend son retour. Le troisième élément dans la vie de Samson qui pointe vers Jésus se trouve au chapitre 15 du livre des Juges. Juges, chapitre 15, à partir du verset 9, il nous a raconté que les Philistins veulent se venger. En effet, Samson a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a attrapé 300 renards, il les a attachés deux par deux avec des flambeaux et il a lâché les renards dans les champs. Les champs ont brûlé. Les Philistins étaient furieux. Et ils se sont dit, c'est fini, il faut en terminer avec ce Samson. Et ils partent en guerre pour attraper cet invincible. Samson va se cacher dans une grotte. Mais le peuple hébreu en a assez, parce qu'il se sent menacé aussi, évidemment. Alors, les gens de son propre peuple, les Hébreux, viennent le voir dans la caverne où il est caché et lui disent, « C'est fini, maintenant nous venons pour te livrer à l'ennemi, pour éviter, nous, d'avoir des problèmes. » Et Samson accepte. Regardez, par exemple, au verset 12, il est écrit ceci. Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te livrer afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils répondirent, « Non, Nous voulons seulement te lier, te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils le lièrent avec deux cordes neuves et le firent sortir de la caverne. Une histoire incroyable. Voilà maintenant que le peuple d'Israël va lier Samson, leur juge, leur chef, pour ainsi dire, pour le livrer à l'ennemi. Et c'est ce qu'ils font. Et quand Samson est devant l'ennemi, l'ennemi est réjoui. Réjoui de voir qu'on leur apporte Samson sur un plateau. Ah, mais l'histoire n'est pas finie. Samson écarte les mains, casse les cordes comme de rien, attrape une mâchoire d'âne, et avec une mâchoire d'âne, il va tuer 1000 Philistins d'un coup. Lui, alors, il est vraiment tombé dans la potion magique quand il était petit. Mais cette histoire me frappe non seulement par la force de Samson, mais par le lien avec Jésus, notre Sauveur. Vous vous souvenez que Jésus aussi a été trahi par l'un des siens, Judas. Et vous vous souvenez que Judas, qui a trahi Jésus, l'a trahi pour le livrer aussi à ses ennemis, qui se sont réjouis qu'on leur livre Jésus sur un plateau d'argent. Mais il s'est quand même passé quelque chose dans Gethsémané, vous vous en souvenez. Regardez par exemple dans l'Évangile selon Jean au chapitre 18, au verset 6, il est écrit ceci. Évangile selon Jean, chapitre 18, lisons dès le verset 5. Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth !» Jésus leur dit, « C'est moi !» Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi !» ils reculèrent et tombèrent par terre. Maintenant, lorsqu'ils sont venus à Gethsémané pour arrêter Jésus, vous vous souvenez, ils sont arrivés avec des bâtons, avec des fourches, avec ce qu'ils avaient comme pour arrêter un brigand, l'arrêter pendant la nuit. Mais il s'est passé quelque chose là encore qui me rappelle ce qui s'est passé du temps de Samson. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 696, Ellen White écrit ceci. La foule s'enhardit quand elle vit que Judas osait toucher la personne de celui qui venait de se montrer glorifié à leurs yeux. On se saisit alors de Jésus et on se mit en devoir de lier ses mains qui avaient été sans cesse occupées à faire le bien. Les disciples s'étaient imaginés que le maître ne se laisserait pas prendre. Ils pensaient que la puissance qui avait jeté à terre ces gens pouvait les y maintenir jusqu'à ce que Jésus et ses compagnons se soient mis en sûreté. Ils éprouvèrent de la déception et de l'indignation quand on apporta des cordes pour lier les mains de celui qu'ils aimaient. Saisi de colère, Pierre tira brusquement son épée, voulut défendre son maître, mais il ne réussit qu'à couper une oreille au serviteur du souverain sacrificateur. À cette vue, Jésus dégagea ses mains, bien qu'elles fussent fermement tenues par les soldats romains, et il leur dit « Tenez-vous là !» Il toucha l'oreille blessée et la guérit à l'instant même. Curieux de voir comment cet événement de la vie de Samson ressemble à ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, notre Sauveur. Il ne pouvait rester lié. Il était trop puissant pour rester lié alors qu'il y avait le besoin, là, d'apporter la guérison. Le quatrième élément de la vie de Samson, qui me rappelle la vie de Jésus, se trouve dans le livre des Juges, au chapitre 15. En fait, c'est l'événement qui suit exactement celui dont on vient de parler. Après avoir vaillamment exécuté 1000 Philistins, Samson se retire, fatigué, et il a soif. Regardez par exemple au verset 18 ce qui est dit. Juges, chapitre 15, verset 18. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif? Tomberai-je entre les mains des incirconcis ?» Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Sans son but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est là qu'on a appelé cette source Enakoré, et elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson a soif et il demande à Dieu de l'eau à boire. Et Dieu lui donne une source. Et dans le texte, Ce détail a attiré mon attention. Il est dit, cette source, elle existe encore aujourd'hui. Je pense à Jésus, notre Sauveur, qui s'était assis sur le bord du puits de Jacob et qui avait soif. Il n'avait pas de quoi puiser dans ce puits. Et la Samaritaine est venue et il a parlé avec elle. Et il a parlé de l'eau du puits, mais aussi d'une eau particulière, une eau de la vie que lui seul peut donner. Vous vous souvenez de ce passage? Regardez-le avec moi dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4. Et au verset 13, il est écrit ceci. Évangile selon Jean, chapitre 4, au verset 13, Jésus parle à cette femme et lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus a ouvert pour cette femme une source d'eau, mais une eau différente, pas celle du puits, une eau intérieure, une source permanente de l'eau de la vie que seul Jésus peut donner. Le cinquième élément qui, dans la vie de Samson, pointe vers Jésus, se trouve dans la suite du texte encore, dans le livre des Juges au chapitre 16. Au début du chapitre 16, il nous est rapporté que Samson va aller à Gaza. Et là, sa faiblesse va ressortir. Il va aller voir une prostituée. Les Philistins qui sont là pensent que c'est le bon moment. Et le soir, ils ferment toutes les portes de la ville. Ils veulent le saisir. Ils ont fermé toutes les portes et ils pensent que le jour est arrivé où ils pourront mettre la main sur lui. Le texte nous dit qu'au milieu de la nuit, Samson se lève et veut sortir. Et quand il arrive aux portes et qu'il voit les portes fermées, il n'y a pas de problème. Il prend la porte, il arrache la porte, il s'en va avec la porte sur son dos et la pose sur une colline éloignée alors qu'il est en marche pour aller à Hébron, qui est distant de 60 km de là. Fantastique. On ferme la porte. Et quelle porte? Samson arrache la porte. Alors, si vous voulez comprendre de quelle porte il s'agit, imaginez ces villes fortifiées du Moyen-Âge, les grandes portes, les portes énormes. C'est ça qu'il arrache et qu'il prend sur son dos. Aucune porte n'est fermée pour lui. Et je pense à Jésus. Je pense à Jésus combien de fois on a voulu enfermer Jésus dans des pièges. Il y avait toujours une porte pour lui. Oh, pensez simplement à l'exemple de la femme adultère. On lui amène cette femme et on lui pose une question. Quelle que soit la manière dont Jésus va répondre, il est pris. Mais cette fois-là, il ne répond pas. Il écrit par terre. Et ses accusateurs s'en vont. Il y a toujours une porte pour Jésus. Et puis je pense à ce que Jésus écrit lui-même dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, à l'église de Philadelphie, l'église de l'amour fraternel, Jésus écrit ceci au verset 7. Apocalypse chapitre 3, au verset 7, il est écrit. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Jésus, s'adressant à son Église, lui rappelle qu'il est lui aussi la porte. Or, souvenez-vous, dans la Bible, la porte, c'est le lieu où on va rendre justice. Un peu plus loin, au chapitre 4 et au verset 1er de l'Apocalypse, Jean écrit ce qu'il voit et il dit « Après cela, je regardais, voici, une porte avait été ouverte dans le ciel. » Jésus rappelle à son Église que la porte, le jugement, c'est lui qui l'accomplit. « Tout jugement a été remis au Fils, nous dit l'Évangile de Jean. » C'est lui qui est le maître du jugement. Jésus a la toute-puissance sur la porte. Il a la toute-puissance sur le jugement. Jésus ne nous laisse pas enfermés dans le péché. Il a ouvert une porte et il est prêt à prendre notre défense. Combien de fois nous nous laissons nous prendre, enfermés dans le péché, dans la difficulté, avec l'impression qu'il n'y a aucune sortie possible. Jésus, lui, arrache la porte, enlève la porte et ouvre une voie nouvelle pour ceux qui se confient en lui. Le sixième élément dans la vie de Samson, qui me rappelle Jésus notre Sauveur, se trouve aussi au chapitre 16 du livre des Juges. Dans le livre des Juges, au chapitre 16, nous retrouvons Samson. Samson dans un piteux état. Sa troisième femme, Dalila, a trouvé la clé. Elle a réussi à avoir le secret de sa force. Elle lui a fait couper les cheveux. Et ils ont pu saisir Samson. Et finalement, ils ont fait de lui un esclave. Ils en ont profité. Enfin, ils ont pu contrôler cet homme invincible. Et un jour, on va faire une grande fête, une fête pour le dieu Dagon. Et on va amener Samson. Samson comme l'illustration suprême de la puissance du dieu Dagon sur le dieu d'Israël. Regardez, il croyait être tout puissant celui-ci. Voyez, il est maintenant aveugle, incapable de faire quoi que ce soit. Le texte nous dit que ses cheveux avaient commencé à pousser de nouveau. Mais Samson est là humilié devant ce peuple. Vous connaissez l'histoire. Il est amené comme preuve de la toute-puissance, non seulement du dieu Dagon, mais des Philistins. Et Samson, dont tout le monde est en train de rire à gorge déployée, accepte sa faiblesse et demande s'il peut s'appuyer sur l'une des colonnes qui sont là. Au verset 26, il est écrit ceci. Juges, chapitre 16, verset 26. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Encore une dernière fois, Seigneur. Et vous imaginez Samson qui attrape les deux colonnes et qui d'un seul coup met ce château par terre. Ce n'était pas une petite maison de campagne, il y avait plus de 3000 personnes sur le balcon. Et Samson met tout ce monde-là par terre. D'ailleurs, il nous est dit dans le verset qui suit, « Ceux qui périrent à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. » Samson, ici, va accepter un sacrifice. Un sacrifice qui finalement va le rendre victorieux. Victorieux sur l'ennemi, parce qu'il va abattre l'ennemi d'une façon plus brillante encore dans sa mort que dans sa vie, nous dit le texte. Alors je pense à ce passage que vous connaissez, et j'aurais pu en choisir beaucoup d'autres, dans Ésaïe au chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53, le verset 12, dit ceci. Il est question du serviteur souffrant, que nous comprenons comme étant Jésus, notre Sauveur. Il est écrit, « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. » Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Jésus aussi a fait un sacrifice dans lequel on aurait l'impression qu'il est perdant, mais nous apprenons que le sacrifice de Jésus est précisément sa plus grande victoire sur l'ennemi. Le Père m'aime, disait Jésus, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Jésus a donné sa vie pour son peuple. Jésus a été victorieux dans sa mort. Il y a un septième élément par lequel je vois dans Samson un type de Jésus. J'aurais peut-être dû commencer par celui-là. Cet homme invincible, cette force incroyable. Aujourd'hui, on fait des concours d'hommes forts pour voir lequel va pouvoir soulever le poids le plus important. On est fasciné par la force humaine, par ce que l'homme arrive à faire. Et on essaye d'être toujours plus fort. On s'entraîne pour être de plus en plus fort. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Obélix est un personnage fascinant, parce qu'il est fort en permanence. Il est fort pour tout. Samson aussi avait provoqué l'admiration par sa force. Mais Dieu avait un plan. Cela, nous dit le texte, venait de l'Éternel. Parce que le Sauveur que nous avons choisi, le Sauveur que nous avons reçu, il est aussi le Tout-Puissant. Nous avons souvent représenté Jésus dans sa faiblesse humaine. Et c'est vrai. Mais malgré sa faiblesse humaine, Jésus est le Tout-Puissant, El Shaddai. C'est ainsi qu'il se présente à son peuple. Dans ce texte d'Ésaïe chapitre 9, auquel nous faisions allusion tout à l'heure, Jésus, celui qui doit naître, est présenté aussi comme cela. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Et regardez avec moi le psaume 91. Psaume 91, un passage que peut-être vous connaissez par cœur, où il est dit au verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, El Shaddai. » Reposer à l'ombre du Tout-Puissant. La première fois que Jésus va se présenter sous ce nom-là, le Tout-Puissant, c'est dans le livre de la Genèse au chapitre 17. Regardez avec moi ce passage dans Genèse chapitre 17. Il s'adresse là à Abraham et ce passage est très significatif. Genèse chapitre 17, au verset 1er, il est dit « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. » C'est la première fois que Dieu se présente comme le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant parce qu'il dit à Abraham « Je suis celui qui peut garantir l'alliance que je vais faire avec toi maintenant. » Et plus que ça, quelques versets plus loin, au verset 5, il lui dit « Tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. » Ce Dieu est tout-puissant, est capable de changer son nom, changer son expérience, changer son caractère et faire d'Abraham une nouvelle créature. Je crois que le tout-puissant Jésus peut aussi faire avec nous la même chose. Jésus, le tout-puissant, voudrait nous faire participer à sa puissance. J'aimerais d'un côté avoir la force d'Obélix. Ça me rendrait service. Mais en réalité, ce n'est pas nécessaire parce que le Sauveur que j'ai, il est tout-puissant et il veut me faire participer, bénéficier de cette toute-puissance. Non pas pour que moi je sois tout-puissant, mais pour qu'il soit tout-puissant en moi. C'est une grande différence. C'est ce que Dieu voudrait, être tout-puissant en moi. Je crains que nous oublions que Dieu est tout-puissant. S'il se montrait simplement un tout petit peu dans sa toute-puissance, nous cesserions d'exister, tout simplement. Nous oublions, je crains, que le Sauveur, ce Sauveur qui est venu sur nos chemins et que l'on a vu dans sa faiblesse sur la terre, se laisser faire, se laisser lier, se laisser mettre à mort, c'est malgré tout le Tout-Puissant El Shaddai des Écritures. Et il nous a fait une promesse. Il nous a fait une promesse qui se trouve dans le livre des Actes au chapitre 1er au verset 8. Lorsque Jésus remontait au ciel, il a dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette puissance, le Seigneur veut la mettre à notre disposition. Et vous avez remarqué, cette toute-puissance, il veut l'employer pour faire de nous des témoins. Et nous ayant transformés en témoins, il va nous donner un témoignage tout-puissant de sa part. Le Seigneur a voulu impressionner son peuple par la puissance d'un homme invincible, Samson. Parce que l'humanité est impressionnée par la force humaine. Malheureusement, cette histoire a mal tourné. Mais l'histoire de celui qui est tout-puissant et qu'il représente est une histoire qui tourne bien. Et si le Seigneur, à la fin des temps, veut nous faire connaître et nous rappeler sa toute-puissance, ce n'est pas pour rien. C'est que s'il y a un moment dans l'histoire de l'humanité où la toute-puissance de Dieu nous est nécessaire, c'est bien maintenant. Si nous sentons notre impuissance dans les situations de la vie et dans le monde d'aujourd'hui, c'est bien maintenant. Si nous avons besoin de savoir nous accrocher au Dieu tout-puissant, c'est bien maintenant. Écoutez ce texte que Madame White écrit dans le livre « Premiers écrits », la page 46. Les tentations de Satan sont plus grandes que jamais, car il sait que son temps est court et que bientôt chaque cas sera décidé, ou pour la vie ou pour la mort. Ce n'est donc pas le moment de sombrer dans le découragement et dans l'épreuve. Nous devons triompher de toutes nos afflictions et nous confier entièrement au Dieu puissant de Jacob. Le Seigneur m'a montré que sa grâce est suffisante dans toutes nos épreuves et que bien qu'elle soit plus grande que jamais, si nous manifestons une confiance absolue en Dieu, nous pourrons par sa grâce en sortir victorieux. Si le Seigneur veut se manifester à nous comme le Tout-Puissant, c'est parce que les temps de la fin représentent pour nous un danger particulier où nous avons justement besoin de savoir bénéficier de la toute-puissance de celui qui est El Shaddai. Amen.